dans Dire et des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Rencontre fortuite et choc de deux vaisseaux. C'est la définition que le dictionnaire Littré donne du mot abordage, terme maritime, qui désigne aussi les combats de mer. D'ailleurs, quand on pense abordage, c'est l'image d'un pirate qui surgit sabre au clair. Eh bien, à l'abordage, c'est le titre d'une pièce de théâtre jubilatoire issue de la rencontre, fortuite ou pas, de l'autrice Emmanuelle Bayamaktam et du metteur en scène Clément Poiret. C'est aussi le fruit de la rencontre, fortuite ou pas, entre le théâtre de l'amour et l'amour du théâtre. Et le Littré a raison, c'est aussi un choc frontal et même quadrifrontal entre la jeunesse adolescente et son féroce appétit de désir et de liberté et le carcan puritain et moralisateur d'une communauté confinée sur elle-même. Si je vous dis que Marivaux est dans les coulisses, vous comprendrez que la ruse de l'esprit, le jeu des corps et la force des mots mèneront au triomphe de l'amour et à celui du théâtre. L'abordage est donc à l'affiche en ce moment du Théâtre de la Tempête jusqu'au 18 octobre et vous m'en direz des nouvelles. Emmanuelle Bayamaktam et Clément Poiret sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
À l'abordage et pas de quartier.
À l'abordage, c'est donc le titre de la pièce. On va y revenir. Ce pourrait être aussi un très beau titre pour lancer la saison dans le contexte actuel. Clément Poiret, elle s'annonce plus compliquée que d'habitude dans cette période de crise sanitaire. Est-ce que à l'abordage, c'est une formule qui résume votre état d'esprit en ce début de saison?
Oui, d'une certaine manière, oui. Je pense que, disons qu'on est, on est conduit à réinterroger beaucoup de choses dans cette crise, surtout quand on a pour vocation de recevoir du public et qu'on a pour goût les moments de communion comme ça. Et donc il y a une série de questions qui se posent et qui ont été importantes pour nous quant au moment de réouvrir et avec quoi et comment, etc.
Donc par exemple, le plateau en quadrifrontal, c'est-à-dire avec du public tout autour du plateau, ouais. Ça c'est né de la nécessité de respecter la jauge et les distances sanitaires.
C'est vrai, c'est-à-dire qu'on avait pour le projet à l'abordage un premier décor, une première maquette de décor qui était prête et qui était plus classique, disons, dans un rapport frontal. Et puis quand cette crise est venu bousculer toutes nos affaires et toutes nos envies. On s'est dit que c'était pas tenable, que le rapport serait pas agréable et que au risque de se retrouver à distance, très loin, dans une salle avec des spectateurs qu'on n'arrive pas à sentir, on a préféré assurer à la fois la sécurité du spectateur, évidemment, avec la distanciation qu'on nous demande, et en même temps privilégier un rapport qui reste celui du théâtre, c'est-à-dire festif.
Donc masque dans la salle pour le spectateur, pas sur le plateau, ça c'était pas imaginable.
Non, pas avec cette pièce en tout cas, et pas pour nous. C'est pas obligatoire, ça ne nous est pas demandé. Les masques par contre dans la salle sont obligatoires. Ils permettent après tout une sérénité, une convention qui permet à chacun de se sentir suffisamment bien pour aller au théâtre, et c'est très important. C'est-à-dire, il y a des gens qui pourraient très bien vouloir se démasquer, mais de toute façon, le masque permet, y compris à des gens plus fragiles ou plus angoissés sur cette question-là, bien légitimement, de se sentir bien avec la distanciation et de ne pas se poser de questions autres que celles que le plateau va leur poser.
Et pour les comédiens, c'est un sacré risque pour eux, non? Parce qu'en plus, il y a quand même beaucoup de rencontres physiques, on se parle très très près, il y a des embrassades.
Oui.
Comment vous gérez ce risque?
C'est un des sujets de la pièce, c'est-à-dire qu'il... Dans tout élan vital et dans il y a une prise de risque. Cette prise de risque, on essaie de, comme tout le monde, de la maîtriser au mieux, c'est-à-dire de on a travaillé donc en abolissant les règles de distanciation et de protection par un masque pendant les répétitions parce que c'était pas possible autrement. Par contre, on a été extrêmement vigilant autour de cette petite bulle qui a été formée sur le travail de plateau et dans lesquelles on est dans des finalement, on est dans une logique très monacale hein, quand on est en répétition. Ça nous prend beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie. Et donc, on a fait extrêmement attention en intégrant là-dedans le fait que entre nous, on faisait petites cellules qu'on devait beaucoup protéger de l'extérieur afin de minimiser un risque qui ne sera jamais zéro.
Quel beau spectacle, en tout cas pour l'ouverture d'une saison. C'est vous d'ailleurs qui dirigez ce théâtre de la Tempête. Et ce texte, c'est donc une commande que vous avez passée, Clément Poiré, à Emmanuel Bayamaktam. Comment est-ce qu'elle est née d'ailleurs, cette idée?
Alors comme vous dites, c'est plutôt une idée qui est née qu'une commande à proprement parler. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le roman d'Emmanuel qui s'appelle Arcadie, qui est un roman qui m'a énormément marqué et ébloui.
Paru chez POL.
Paru chez POL, absolument. Et puis j'ai commencé à découvrir le reste de son œuvre tout aussi belle et foisonnante d'ailleurs. Et ça a été comme c'est le cas parfois dans le rapport aux auteurs, y compris les auteurs de plus anciens, le début d'une conversation. Mais cette conversation, on l'a d'habitude avec l'œuvre, et là j'ai voulu pouvoir engager cette conversation directement avec Emmanuel, que j'ai eu la chance de rencontrer, enfin qui a eu la gentillesse de me recevoir sans bien savoir de quoi on allait parler, parce que c'était le cas. Et donc c'est au cours de cette conversation, rebondissant d'une idée à l'autre, est venu ce parallèle avec la pièce de Marivaux, Le Triomphe de l'amour, qui est comme une figure renversée d'une certaine manière de la communauté d'Arcadie. En s'en parlant comme ça, est née cette idée de d'écrire une pièce parfaitement neuve, parfaitement inédite, mais partant, s'inspirant du Triomphe de l'amour et de sa structure.
Est-ce qu'on peut parler d'un travail de réécriture, Emmanuel Bayamaktam?
Je dirais non. Quand on me dit réécriture, je pense toujours à la nouvelle de Borges où Pierre Ménard réécrit intégralement à la virgule près des chapitres de Don Quichotte. Donc pour moi, ce serait aussi absurde de réécrire Marivaux que de faire ce qu'a fait le personnage de Borges. Non, et de la même façon que Clément a raison de dire que c'était pas une commande, c'est plus une inception, comme dans le film, il a déposé délicatement dans mon cerveau cette idée de mettre en résonance Arcadie. Le triomphe de l'amour. Et ensuite, donc j'avais vraiment toute liberté de faire ce que je voulais avec la pièce de Marivaux. Et ensuite, c'est moi qui ai décidé de la suivre finalement pas à pas. J'ai vraiment gardé la structure de la pièce et la distribution de la pièce. Mais à l'intérieur de cette structure, finalement, j'ai un peu tout dézingué. J'ai déglingué complètement la machine matrimoniale qui se met en branle dès la scène 1. Et j'ai réinventé littéralement les personnages. Donc réécriture, non, pas vraiment.
Et la langue de Marivaux, est-ce qu'elle a inspiré votre écriture à vous ou pas du tout?
Alors, j'ai de toute façon l'habitude de tresser mon texte avec d'autres textes. Et là, finalement, de temps en temps, le lecteur averti reconnaîtra des répliques qui sont dans la pièce de Marivaux que j'ai gardées. Alors, soit parce que finalement elles étaient écrites dans un français qui pouvait sonner contemporain, soit précisément parce qu'elles avaient quelque chose d'étrange, de poétique et d'anachronique. Et par exemple, le personnage de Dimas, qui a de toute façon un langage étrange, je lui fais souvent dire du Marivaux. Donc, comme ça, de temps en temps, il y a des répliques entières ou des phrases ou des formules qui sont de lui.
Oui, parce que la langue que vous placez dans les mots des personnages, elle est à la fois très pure, très très littéraire et en même temps très orale, très très contemporaine. Quel regard et quelle oreille justement est-ce que vous portez sur cette langue, Clément Poiré?
C'est une chose qui m'a tout de suite frappé parce que moi je suis un lecteur d'ailleurs j'ai beaucoup plus d'aisance à lire des romans que du théâtre parce que le théâtre se révèle qu'au plateau, donc c'est très difficile à lire. Mais par habitude, on peut avoir l'impression de repérer une écriture qui est potentiellement très théâtral, et c'est aussi l'une des raisons qui m'a attiré vers cette rencontre avec Emmanuel. Donc j'en avais déjà eu une intuition quand même que ça pouvait marcher, mais ça a été une des grandes interrogations et une des très belles surprises qu'on a eues, les comédiens et moi, parce que c'est la première chose qu'on ressent quand on commence à travailler en lecture, c'est quand il y a une langue qui est faite pour être dite. C'est pas toujours le cas, et parfois même avec des pièces très belles, mais c'est pas toujours le cas.
Et donc il y a eu comme ça des allers-retours entre le plateau et la table?
Absolument, très important, c'est-à-dire que c'était quelque chose dont on était convenu assez tôt avec Emmanuel, et qui je crois intéressait beaucoup Emmanuel, c'était que on partait avec les comédiens. Emmanuel a été associé très tôt, y compris sur la distribution, et sur les premières lectures évidemment. ce qui était extrêmement excitant pour nous tous, je crois, c'était de pouvoir se mettre au service d'une écriture en cours, c'est-à-dire que alors on a eu la chance d'avoir une version déjà terminée mais qui était encore pleine de possibles évolutions, et puis les acteurs se sont emparés des mots d'Emmanuel, et Emmanuel a pu entendre ce qu'elle avait écrit et aussi découvrir comment les comédiens s'emparent d'un texte et qu'est-ce que ça peut produire dans l'imaginaire d'un auteur avec ces personnages qui étaient en train de naître.
Et c'est ainsi que la princesse Léonide de Marivaux et sa suivante Corinne deviennent sous votre plume, Emmanuel Bayamaktam, Sacha, prénom parfaitement épicène s'il en est, et Carly. Alors Sacha, pour la création de cette pièce, c'est Louise Grimbert qui est absolument bluffante. Vous l'avez complètement relookée pour les besoins du rôle, Clément Poiré? Un petit peu, hein?
Un tout petit peu. Voilà. À une moustache près, oui.
Voilà, petite moustache discrète, chemise, Bermuda, chaussures de randonnée, hein, lorsqu'on la découvre sur le plateau avec sur le dos un énorme sac à dos orange, et on découvre Sacha aux côtés de Carly, jouée par Elsa Gedge, en salopette basket avec un bob sur la tête. Toutes deux sont dans la forêt, et c'est là que Sacha a surpris un beau jeune homme étendu sous les arbres. Elle en est tombée raide dingue amoureuse, elle brûle d'un ardent désir pour lui et entend l'assouvir sans entrave. Alors, sans le savoir, elle se met à citer Oscar Wilde.
Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder. Essayez de lui résister et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendue. Je ne sais pas qui a dit ça, mais j'ai décidé de proscrire de mon existence tout ce qui ressemble à une aspiration maladive. J'y veux que la bonne santé, le désir triomphant, la jouissance sans entrave et toutes les fureurs de l'amour.
Celui qui a dit ça devait être un être attardé mental dans tout genre.
C'est toute une philosophie, hein, de l'amour, mais peut-être aussi de la vie d'ailleurs, que Sacha énonce comme ça dès le début de la pièce à sa jeune camarade Emmanuel Bayamaktam. Elle va se montrer fidèle jusqu'au bout, hein, à cette philosophie. Cette philosophie, c'est quoi? C'est un art de jouir ou un art de vivre, tout simplement?
Oh là, je pense que c'est pas aussi théorisé, aussi conscientisé, hein, dans l'esprit de mon personnage. Hein. C'est vraiment la houle, la fougue de la jeunesse qui va déferler sur cette petite communauté d'abstinents. Hein. Elle le dit elle-même, hein, elle connaît pas grand-chose à la vie, elle connaît pas grand-chose à l'amour, mais elle est mue par un désir irrépressible de conquête et de jouissance sans entrave.
Donc, donc au départ, c'est un conflit de génération finalement assez classique.
Pas forcément au départ, hein, puisque elle sait pas grand chose de la communauté sur laquelle elle va déferler, mais de fait il y a quand même cette idée que effectivement on a quatre personnages très jeunes et deux qui sont un peu plus rassis. Oui, il y a du conflit de génération dans l'abordage, clairement.
Qu'est-ce qui vous intéresse, parce que c'est pas la première fois justement que vous mettez en scène dans vos romans des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'idée justement de creuser cette Venda?
Alors, dans mes romans, hein, si les narrateurs sont souvent effectivement très jeunes, c'est parce que je les saisis à l'âge des possibles. Hein. C'est un âge très très romanesque. Hein. C'est l'âge un âge malléable, un âge où tout peut basculer. Et là, pour ce qui est de l'abordage, la jeunesse de Sacha et de Carly leur donne aussi une espèce de radicalité, de cruauté, d'absence de scrupules, d'innocence et d'inconscience, qui est très intéressante sur le plan de l'écriture théâtrale.
Voilà, et cette fougue que vous décrivez à l'instant, Emmanuel Bayamaktam, elle s'oppose évidemment complètement à la façon dont a été élevé le jeune homme des pensées de Sacha, hein, qui s'appelle Haydn. Alors, il vit, vous employez d'ailleurs le mot, je crois, dans une sorte de phalanstère, de secte, là aussi vous employez le mot, donc une micro-société qui vit loin des tentations consuméristes, loin des nouvelles technologies, il n'y a pas de 5G là-bas, visiblement. Une société de décroissants, une forme donc d'ascèse, une société confinée. Vous avez employé à l'instant le mot rassis.
Alors là, il y a tout un jeu avec Arcadie, hein, avec la communauté que j'imagine dans Arcadie, où effectivement il y a comme ça des gens plutôt âgés en général, reclus, coupés du monde. Donc je faisais dialoguer un petit peu les deux communautés, sauf que dans l'abordage, c'est l'inverse.
Toujours cet effet miroir.
Voilà, il y a toujours cet effet miroir, puisque là, au contraire, il refuse la jouissance, il refuse l'amour, et Il refuse la vie, en fait. Il y a une peur, que Théodora, d'ailleurs, exprime très bien. Il y a une peur du mouvement, une peur de l'élan, une peur de l'émotion, une peur de l'excitation. Finalement, il refuse le trouble.
Voilà, Théodora, c'est l'un des personnages qui vit au sein de cette communauté. On va y revenir dans un instant. Donc, au départ, Sacha et Carly regardent cette communauté de l'extérieur, hein, et ils ont l'impression, c'est Sacha qui utilise cette expression, que c'est un crime contre l'humanité de vivre comme ça, ou plutôt de ne pas vivre comme ça. Elle y va quand même très très fort. Le pire, finalement, des crimes contre l'humanité, c'est la chasteté, c'est l'abstinence sexuelle à laquelle le gourou, entre guillemets, de la secte, qui se nomme Kinbot, impose à ceux qui l'entourent, et notamment donc à ce jeune garçon Hayden. Il faut donc partir à l'abordage, prendre d'assaut la forteresse dans laquelle le jeune garçon est reclus, avec toute sa candeur, sa naïveté. Il faut donc y entrer et s'y faire accepter. Pour ce faire, les deux filles, habillées, je le rappelle, en garçon, vont mettre en place un vrai plan de bataille, particulièrement rusé et efficace, avec comme arme principale la séduction. Il y a la séduction, il y a la ruse, il y a le travestissement. C'est vraiment les trois, finalement, armes qu'elles vont utiliser, Clément Poiré. Ruse, séduction, travestissement, on est complètement dans l'esprit de Marivaux, là.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Marivaux a toujours bien dépiauté, si je puis dire. Et il y a la séduction et, disons, ce à quoi elle fait appel, c'est-à-dire la vanité. C'est-à-dire l'image aussi qu'on renvoie à la personne face à soi. Et donc, et puis aussi la tyrannie. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, en tout cas, cette dialectique permanente qui s'installe à partir de cette effraction entre désir et crainte, disons. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de choix là-dedans. Il y a des personnages qui viennent bousculer une communauté qu'on peut voir tantôt comme absurde et décatie, et puis parfois comme protectrice et porteuse d'une humanité abîmée. Et on ne sait jamais exactement sur quel pied danser. Et en même temps, on se laisse porter par un élan très très naïf et très plein de jubilation. Mais ce qui est très très beau, c'est ça, c'est que quand l'élan nous porte, la seconde d'après, on pourrait avoir un retour en se disant, mais est-ce que vraiment il fallait aller aussi loin. Est-ce que on met pas à mal justement quelque chose qui a saboté?
Mais parce que c'est vraiment pas de quartier, Emmanuel Bayamakhtama. Il y a pas de limite, quoi. Tout est permis dans la façon dont Sacha aborde, dans les deux sens du terme finalement, les personnages qui se trouve dans cette communauté.
Oui, alors elle a une morale.
C'est très violent, c'est très martial, c'est
voilà,
très guerrier.
Que moi, je réprouve un peu, hein, c'est que qui voilà, pour elle, la fin justifie les moyens. Après tout, elle aime ce beau garçon. Il est dans l'ordre des choses que les jeunes couchent avec les jeunes. Mais là, je retrouvais Marivaux finalement. C'est-à-dire que c'est ce que Lisette dit dans le jeu de l'amour et du hasard. Hein, le non n'est pas naturel. Et la communauté que j'ai imaginée pour l'abordage, c'est une communauté qui dit non et qui dit non à tout. Et Sacha, c'est le oui. C'est le oui à tout. Et effectivement, c'est sans limite et sans quartier.
Alors, première proie, Théodora, incarnée par Sandy Boisard. Alors, c'est assez ignoble quand même de s'attaquer à elle, parce que nous, spectateurs, on est forcément, on a presque un peu pitié. C'est pas un joli mot, la pitié, mais enfin, on est en compassion, on va dire, c'est peut-être mieux, avec Théodora, parce que c'est une vieille fille qui a jamais connu le bonheur. Et là, finalement, qu'on prend le risque de détruire à travers la stratégie de Sacha. On lui a jamais dit qu'elle était belle, elle attendait que ça, quoi.
Oui, effectivement, elle a très peu vécu, hein, elle a très peu éprouvé, son cœur a très peu battu. D'ailleurs, c'est un tout petit cœur, hein, elle le dit à Sacha. Et de toute façon, la pièce de Marivaux est cruelle. Je pense que la mienne est moins cruelle que celle de Marivaux.
Alors, avec elle, ça va être relativement facile. Ça se corse quand même sacrément avec le maître de maison, donc le gourou, Kinbot lui-même, grand gaillard barbu qui vit les pieds dans la terre, à la voix forte, à la démarche décidée. Il est joué par Bruno Bléré. Alors quand Sacha lui dit qu'elle l'aime, eh bien, il commence par la repousser, mais elle arrive à le retourner par la force de ses mots.
Laisse-moi t'expliquer, parce que j'ai besoin de me justifier après l'aveu que je viens de te faire.
J'ai besoin que tu te taises et que tu t'en ailles. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous en prenez à l'homme le moins aimable qui soit. Je suis solitaire, je suis sauvage, je suis rude. Sans compter que l'amour m'est complètement étranger, je ne dois rien pour vous.
Je ne te demande rien, je veux juste que tu m'écoutes 5 minutes, que tu ne me laisses pas compter là, au milieu d'un aveu qui me ridiculise. ferais si j'allais pas jusqu'au bout?
Je veux pas prendre de risque.
Mais le risque, ah, je représente un risque, moi. Il est où le danger? C'est moi qui ai raison d'avoir peur, puisque c'est moi qui viens de t'avouer mon amour.
Mais c'est quoi cette manie de tout dire tout le temps, là? J'en veux pas, moi, votre aveugle m'encombre. Oh là là, mais voilà, aujourd'hui on dit tout, là on exhibe ses émotions, on étale ses confessions intimes partout, sans se préoccuper une seconde de l'interlocuteur. Je ne vous interdis pas de m'aimer, je vous interdis de me le dire.
Mais qu'est-ce que tu crois? Que je te le dis parce que ça m'échappe? Que c'est trop fort, impossible à retenir, ça me monte rêve, écoute. Oh, je t'aime. Oh, c'est ça, normal. De toute façon, je suis comme toutes les filles de ma génération, hein. J'ai 20 ans, je ne cache rien, je montre tout, j'ignore jusqu'au sens du mot intimité. Oh, mon pudeur, n'en parle pas. Non mais sérieusement, c'est ça que tu crois? Et bah dans ça, détrompe-toi. Rien ne m'échappe, je contrôle tout. Je te dis que je t'aime parce que j'ai besoin de la confusion de le dire. Parce que cette confusion aidera peut-être à me guérir. Parce que quand elle sera à son comble, quand je me serai bien humiliée, bien rabaissée devant toi, j'aurai tellement honte que je serai totalement dégoûtée de moi, de toi, de l'amour. Ouais, je sais, c'est tordu, mais finalement, c'est ça mon projet. Que tu m'apprennes à me dégoûter de l'amour, tu vois. J'ai vraiment besoin de tes leçons, hein. Tu ne m'aimes pas? Eh bien, apprends-moi à m'y résigner. Je te demande pas de m'aimer, mais j'ai envie que tu m'aimes. Enlève-moi jusqu'à cette envie.
Bon, elle est extrêmement élastique, hein. Quand même, Sacha Emmanuel Bayamaktam, imperceptiblement, là, on sent déjà qu'elle commence à retourner un peu Kinbot comme une crêpe. Elle entre dans son jeu, elle adopte ses théories, elle lui embrouille finalement complètement la tête. Pour vous, c'est une tacticienne, quelqu'un qui sait s'adapter en permanence à l'adversaire, ou c'est une stratège, quelqu'un qui sait précisément où elle va?
Oui, elle sait précisément où elle va. C'est comme une flèche, hein. Carly parle à son sujet d'arbalète, hein. Effectivement, il y a quelque chose comme ça d'implacable. Et en réécoutant là l'extrait que vous venez de nous faire entendre, c'est marrant parce que je reconnaissais les phrases de Marivaux que j'ai trouvées tellement belles au moment d'écrire que j'ai pas pu ne pas les conserver. Hein. Je te dis que je t'aime parce que j'ai besoin de la confusion de le dire. C'était trop beau pour que je n'en fasse rien. Et du coup, j'ai un peu oublié votre question.
Oui, tacticienne, voilà. Ou stratège? Parce que moi, c'est un peu l'impression que c'est les deux, finalement. Puisque vous disiez qu'elle sait précisément où elle va, c'est vrai qu'elle a un objectif extrêmement clair et peu importe les conséquences. En même temps, là, dans son dialogue avec Kinbot, elle s'adapte à ce qu'il lui dit. C'est-à-dire que non seulement elle utilise la force des mots, mais elle utilise aussi la force de son écoute.
Oui, elle est très forte et finalement très très psychologue, bien qu'elle n'ait que 20 ans. Non, celle qui s'adapte, celle qui est souple, c'est plutôt Carly.
Oui, alors Carly, on va y venir dans un instant, parce que c'est vrai qu'elle fait partie des personnages, parce qu'elle n'est pas toute seule, qui vont aider Sacha dans son entreprise. Mais justement sur ce face-à-face, qui est vraiment un moment très fort de la pièce entre Kinbot et Sacha, Clément Poiret, elle joue donc sur les mots, elle joue sur le discours, elle joue sur le fond, elle contre les arguments de son adversaire. Comment est-ce que vous avez imaginé le jeu des regards entre les personnages? Parce que dans un affrontement aussi fondamental, aussi violent, le regard et le corps comptent aussi.
Oui, le regard et le corps comptent aussi. Et là, en plus, il y a cette particularité que le regard, il précède la scène. C'est-à-dire que Kinbot a vu Sacha une première fois, l'a vu en fille, c'est très bien, avant même qu'elle lui ait adressé la parole, que c'est une fille. Et donc, il y a une partie du jeu qui est pipée, c'est-à-dire que Kinbot assiste justement aussi à l'habileté intellectuelle de Sacha, parce que elle est déjouée à peine la scène a commencé. Et il l'a déjà vu, c'est-à-dire que il y a un regard originel qui a existé, qui peut toujours contourner, qui peut toujours essayer d'éviter. Il l'a vu et il a été sensible à ses charmes. Donc, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire que dans la scène, il y a quelque chose qui se met en jeu entre la qualité rhétorique de leur échange, alors qu'il y a une autre scène qui se joue en dessous, c'est-à-dire celle de la nature, d'une certaine manière, qui est en train de gagner. Et le fait que ce soit une jeune fille ou une jeune femme extrêmement entêtée, extrêmement habile, extrêmement lutteuse ne fait que renforcer quelque chose, c'est-à-dire que Kinbot perd en allant à l'affrontement.
Oui, il y a un côté très animal, je trouve, dans cette scène. C'est un peu l'affrontement de deux bêtes qui utilisent deux stratégies effectivement assez différentes, mais il y a un côté, oui, très très tellurique et oui animal, je crois. Je
vois pas absolument. Et à chaque fois que Kinbot va vouloir clore le bec de sa jeune adversaire, s'il y revient, c'est qu'il est appelé. S'il est appelé, c'est qu'il est en train de perdre.
Et Sacha dispose dans sa quête, dans sa guerre, dans sa bataille, de plusieurs adjuvants, de plusieurs aides qui vont l'aider dans cette entreprise. Et la première adjuvante, vous en parliez, Emmanuel Bayamaktam, c'est sa copine Carly. Alors au début, Carly, elle a l'air un peu timide, hein, pas très sûre d'elle, dans sa façon de parler, dans sa voix. Elle semble peut-être aussi un petit peu moins risque-tout, un petit peu plus raisonnable, peut-être que Sacha. Et au fil de la pièce, elle devient quand même sacrément maligne.
Alors, chez Marivaux, c'est drôle parce qu'en fait, elle est la suivante de la princesse. Et alors, moi, ça m'intéressait pas du tout de garder ce rapport de subordination un peu archaïque. Donc, je les ai vraiment mises sur le même plan. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au début, elle est juste, effectivement, comme vous le dites, adjuvante, complice admirative, mais complice. Et puis, finalement, elle y trouve son compte, elle, dans cette communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va s'y épanouir. Déjà, elle va très vite avoir des intrigues amoureuses avec Arlequin, puis avec Dimas. Et finalement, ça lui va, elle... De se trouver dans ce cadre idéalement bucolique.
Laisse-moi t'aimer.
Ça, c'est Carly qui chante. Alors, c'est un très très beau moment, moi, je trouve, dans cette pièce. C'est la première chanson que votre comédienne Elsa Gedge interprète avec un micro de karaoké face au jardinier de Kinbot qui s'appelle Dimas. Alors, on est tenté entre le fou rire sous les masques, parce que c'est quand même assez loin de l'original de Mike Brandt, on est d'accord, Clément Poiré.
Malgré bien des efforts.
Et en même temps, c'est extrêmement émouvant. C'est un moment extrêmement touchant. Comment est-ce que vous avez dirigé Elsa Gedge pour mettre au point ce moment-là? Racontez-nous un peu le travail de préparation.
Alors, je l'ai pas fait du tout. C'est une chanson qui fait partie intégrante de la pièce, à l'origine pas à cet endroit-là exactement, mais enfin qui est très important pour Emmanuel, la chanson. Et ce moment et la manière dont elle est chantée, c'est Elsa qui l'a proposé en répétition. À un moment, c'était très drôle parce que donc la scène devait continuer et puis elle a dit à tout le monde écartez-vous et elle s'est mise à chanter. Elle avait préparé son coup bien sûr et c'est extrêmement gracieux et intelligent la manière dont elle le chante et la raison pour laquelle elle chante à ce moment-là est extrêmement bien pensée. Donc j'y suis strictement pour rien. C'est une alliance directe entre Emmanuel et Elsa.
Alors pourquoi cette chanson, elle vous a expliqué cette chanson-ci, Emmanuel Bayamaktam?
Moi, c'est vrai que j'ai des fixettes sur certaines chansons, en particulier sur celle-là et sur celle de Rulo Iglesias, qui sera chantée par Dimas à un moment de la pièce. Et oui. Là encore, comme je le fais parfois avec Nerval ou avec Racine, j'ai un peu mêlé les mots de la chanson de Mike Brandt et ceux de la chanson de Rulo à mon texte même. Après, j'ai senti chez Elsa une envie de chanter. Je l'ai senti... pas chez tous, mais en tout cas chez elle. Et donc, je savais qu'il y aurait cette chanson. Je savais pas forcément que ce serait chanté par elle. Mais en tout cas, dès que j'ai senti ce désir de chanter chez elle, évidemment, je l'ai vivement encouragée. Même j'aurais voulu qu'elle chante tout le temps. Mais bon, c'était un peu compliqué. Puis je pense que Clément...
Mais Mike Brandt et Rulio Iglesias, c'est pas du tout la génération de Carly, a priori.
Pas du tout. C'est plutôt la mienne, effectivement. Après, ce sont des chansons intemporelles, comme toutes les bonnes chansons. C'est-à-dire qu'en tout cas, celle de Mike Brandt, elle est encore connue par les jeunes. Oui. Celle de Rulio, je suis pas sûre.
Bon, en tout cas, la chanson de Mike Brandt, elle lui permet de se mettre Dimas, donc le fameux jardinier, dans la poche. Dimas qui l'écoute vraiment en tremblant. On a presque l'impression, là pour le coup, c'est un peu, il y a un côté cinéma aussi, parce qu'on est dans le champ et le contre-champ, quoi. Il faut regarder alternativement les deux personnages, donc celle qui chante et qui exprime son amour, et puis celui qui en a la peur, parce que lui a été élevé aussi, si j'ose dire, dans cette communauté-là. Alors, il est impressionnant, Dimas, parce que il joue avec son corps d'une façon vraiment singulière, Joseph Fourès.
Ouais, Joseph est un acteur qui m'impressionne aussi, moi, beaucoup, que j'admire beaucoup, et qui a un rapport au corps très fort. Et de toute façon, il s'agit d'un personnage qui a un rapport difficile avec la langue. C'est-à-dire
qui
que...
Qui bégaye,
et puis qui utilise des mots très, très jolis, d'ailleurs. Il en est très poétique, mais il a du mal à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il pense par les mots. Et donc, forcément, pour un acteur, ça conduit à travailler beaucoup avec son corps et avec ce comment les émotions quand même transpercent, parce que encore une fois dans la pièce, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'agit, on est face à sept personnages, et sept personnages qui sont en métamorphose, c'est-à-dire ils vont tous être transformés par ce qui se passe tout au long du spectacle.
Alors, il y a une autre chanson un petit peu plus tard dans le spectacle, toujours avec Carly qui éclate en habit de lumière dans une scène très onirique, et là elle est beaucoup plus sûre d'elle, et on voit effectivement ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire qu'elle a évolué, qu'elle a pris de l'assurance, qu'elle s'épanouit aussi, hein, cette jeune fille. Alors Carly, elle chante, on l'a compris, et puis Carly dessine aussi. Donc Carly est vraiment une artiste, hein, d'une certaine façon. Elle a le chant et le dessin, et ses portraits participent aussi à l'entreprise de séduction de Sacha, et un petit peu à la sienne aussi. Et ça, le dessin, c'est aussi issu de Marivaux, Emmanuel Bayer-Lactane.
Ah, complètement. Autant la chanson, elle chante Be My Baby, alors ça c'est vraiment, ça n'était pas dans le texte initial, même si je suis ravie,
je m'en doutais un petit
peu. Divine surprise de la voir chanter dans cette robe lamée, j'ai trouvé ça magnifique et j'adhère complètement. Non, le dessin c'est chez Marivaux, comme un stratagème de plus, hein, et c'est là où Clément a raison de parler de vanité finalement. Le personnage de Marivaux, les personnages de Marivaux se servent de ce dessin pour flatter les deux forteresses à faire céder à Hermocrate et Léontine, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, on se sert du dessin pour offrir une image flatteuse à ceux qu'on veut mettre dans sa poche.
Et du triomphe de l'amour, vous avez aussi gardé les identités de Dimas et d'Arlequin. Pourquoi vous n'avez pas changé les noms de ces deux personnages-là?
Alors, c'est toujours compliqué dans certaines comédies classiques, il y a ces prénoms grecs d'opérette, hein, qui pour moi ne rimaient pas à grand-chose, hein, d'autant que finalement, il y a une histoire de guerre de succession pour le trône de Sparte chez Marivaux, que j'ai complètement évacué de mon intrigue, évidemment, puisque j'ai tout réactualisé. Donc, il restait des prénoms qui ne me plaisaient pas, et pour moi, l'onomastique, ça a beaucoup d'importance, et le fait de rebaptiser des personnages, c'était aussi une façon de me réapproprier un peu ce texte. Et en revanche, Arlequin, la référence à toute une tradition de comédie italienne me plaisait beaucoup. Et Dimas, voilà, Dimas, c'était pas gênant. Je pouvais le garder. Mais les autres, c'est vrai, j'ai eu besoin de leur donner d'autres prénoms. En tout cas, le moment où je baptise des personnages, pour moi, est toujours très important.
Bon, Arlequin, c'est vrai que c'est un nom qu'on retrouve dans énormément de comédies. C'est un archétype, le personnage d'Arlequin. C'est issu de la Commedia dell'arte.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un archétype qui court de la Commedia dell'arte jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve. C'est un archétype qui est donc comique, mais aussi toujours roublard, souvent paresseux. Donc il y a un mélange comme ça chez Arlequin de valeurs très très différentes. Alors là, ça se retrouve de manière renouvelée, mais en effet, notre Arlequin aussi est un être composite.
Et Arlequin, il a le verbe beaucoup plus sûr que celui de Dimas.
Oui.
Il a une sacrée énergie aussi.
Sacha et Carly, ce sont des filles. Tu savais pas? Mais tu sais quoi au juste?
Eh ben, je sais ce que tu viens d'apprendre. Les garçons sont des filles. Non, les filles sont des garçons. Oh, j'avais dû m'en douter. Elles ont presque la toasté avec du caramel et du patchouli en notes de tête, tu vois. Mais comme avec une odeur de fumier autour. Une odeur bourbeuse. Non, une odeur fourbeuse. Non, une odeur dérangeante.
Elles sentent l'amour. Pas étonnant que ça te dérange. T'es comme Timbot. T'es pire que lui même. Parce que t'adhères à sa doctrine sans la comprendre. T'es qu'un sale petit mouton suivi, ce Dimas. Sans cervelle, ni entraille. Si ça se trouve, t'as pas de couilles. Et c'est pour ça que tu t'es installé chez nous.
et c'est François Charry hein, qui incarne Arlequin sur le plateau du théâtre de la Tempête. Vous pouvez nous présenter Arlequin, Emmanuel Bayamactam.
mon Arlequin.
Parce votre que, Arlequin.
En définitive.
Qui est assez différent de celui de la Commedia dell'arte.
Oui et non, il y a effectivement, hein, Clément parlait de roublardise, ça se retrouve, hein, c'est un trait qui se retrouve, mais sans que je l'ai vraiment prémédité, c'est vrai qu'il est devenu peut-être le personnage le plus emblématique d'à l'abordage, au sens où effectivement, et très emblématique aussi de mon écriture d'une façon générale, c'est vrai que c'est un arlequin transgenre, c'est vrai que c'est un arlequin souple, malléable, bigarré, chamarré, qui épouse les désirs des uns et les désirs des autres. Et ce qui est très drôle avec l'arlequin là que joue François Charry, c'est que la costumière Anna Chedine est allée chercher dans mon roman, est allée chercher dans Arcadie, une des tenues de scène du personnage d'Arlequin. Donc même au niveau des costumes, il y a un dialogue entre les deux textes. Et du coup, ce moment où il est comme ça, en petit short de satin avec des cache-tétons et un débardeur, c'est finalement quelque chose que Anna est allée chercher dans mon texte. Enfin, en tout cas, c'est un Arlequin formidable et qui lui aussi a improvisé des choses. Hein. Il y a des moments qui m'ont complètement échappé. C'est François Charry qui a décidé voilà, d'être un avocat ou un prêtre. Et il a rajouté comme ça des choses charmantes.
Donc il y a vraiment eu un travail, hein, encore une fois, entre l'autrice que vous êtes, le metteur en scène et les comédiens et comédiennes sur le plateau. Le texte a énormément évolué entre votre premier jet d'écriture et la première représentation.
Oui, il a évolué. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle proportion, même s'il y avait une première version qui était tout à fait aboutie. Hein, Clément peut en témoigner. Mais en écoutant les comédiens, en regardant Clément les diriger, en assistant comme ça en juin à des tas de lectures et de répétitions, c'est vrai que j'ai été tellement éberluée, bluffée par leur talent que j'avais envie de leur donner plus de textes. Et c'est vrai que c'est pour ça que le texte dure 2 heures, c'est qu'en fait, je les ai trouvés tellement extraordinaires que je voulais qu'ils puissent donner la pleine mesure de ce talent. Et donc, du coup, c'est vrai que le texte s'est plutôt rallongé hein, entre la première et la dernière version.
Bon, mais ça passe très vite.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'écrivaine et dramaturge Emmanuel Bayamactam et le metteur en scène Clément Poiret pour leur pièce À l'abordage, librement adaptée du Triomphe de l'amour de Marivaux, actuellement à l'affiche du théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes en banlieue parisienne. Alors on l'a dit, hein, le langage et la ruse, plus la chanson et le dessin, telles sont les armes utilisées par Sacha et Carly pour séduire le gourou Kinbot, sa sœur Théodora, mais aussi Dimas le jardinier. En ce qui concerne l'objectif principal, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire Haydn, hein, ce jeune et ingénu qui a grandi dans cette communauté, dans ce carcan où la jouissance et l'amour sont tabous. Les mots sont toujours là dans la stratégie de Sacha, mais Sacha utilise aussi beaucoup plus directement son corps. Et quand elle lui dévoile un sein, le jeune puceau, qui est joué par David Guez, en est tout retourné.
Ouais, je sais, la première fois, ça doit faire un effet bizarre. Kinbot n'a pas tort de redouter les tensions, les pulsions, les passions, l'excitation et t'as pas tort d'avoir peur d'être un homme. Parce qu'il y a tant de façons de l'être qui rendent le monde dangereux pour les filles. Et c'est pour ça que je me déguise en garçon avec Carly. Comme ça, on passe parfois les voies. Et les mecs ont cessé de nous emmerder. De nous coincer dans les chiottes, de nous traiter de putes, de nous demander si on tue. Et nous, on a cessé d'avoir peur. Tu peux pas t'imaginer combien c'est facile, confortable et sécurisant d'être un mec qui balade dans la rue. Enfin non, je suis bête, t'as pas besoin de t'imaginer, t'as qu'à le faire, tu l'as toujours fait. C'est l'inverse que tu t'imagines pas. Tous ces espaces angoissants pour une fille dans sa panoplie de filles.
Tu me prends tellement de cours là, je sais plus ce que je pense.
Et non, je vais t'aider à y voir clair. Adieu, Haydn. Les filles sont en danger partout dans le monde, mais ce n'est visiblement pas chez vous qu'elles pourront trouver un asile.
Emmanuel Bayamactam, elle est de la génération MeToo, Sacha.
Ah, complètement. Alors, c'est vrai que je pense que Clémence devait se douter que le fait de me proposer une pièce où il y a du travestissement, ça me plairait. Hein. Il connaît mon personnel romanesque, où il y a beaucoup de travestis, de transgenres, ou de personnages un peu équivoques sur le plan du genre. Et là, finalement, alors, chez Marivaux, on peut avoir l'impression que le travestissement, c'est juste un stratagème pour pénétrer une communauté où la mixité est finalement proscrite. On a l'impression que Marivaux n'en fait pas grand-chose d'autre, mais après tout, j'imagine qu'en fait, les comédiens s'en emparaient hein, au moment où la pièce a été jouée au XVIIIe siècle, et qui devaient en faire quelque chose d'un peu troublant. En tout cas, moi, voilà, je voulais jouer du trouble, et je voulais qu'effectivement, ça soit autre chose qu'un stratagème, et que ça introduise du flottement dans le genre.
Alors, vous vous êtes évidemment posé la question l'un de l'autre, j'imagine, de la place du corps dans la tactique de séduction de Sacha. Alors, ma question va peut-être vous paraître un peu brutale, Clément Poiré, mais peut-être un petit peu comme les propos de Sacha elle-même, d'ailleurs. On a posé l'impression que c'est le langage et la ruse pour séduire le vieux Kinbot et une jeune paire de seins pour séduire le jeune Eden.
Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son amour est ingénu, c'est-à-dire que elle veut s'offrir, le fait que elle va se retrouver elle-même coincée avec le fait qu'elle est dans une logique stratégique, y compris avec Aiden, dont elle a aussi besoin pour pouvoir pénétrer la communauté, mais il y a un élan. Il y a un élan puissant et qui passe directement par le corps, et comme elle le dit, elle n'a jamais connu d'homme. C'est quelqu'un qui est très jeune et qui est encore vierge, et qui est donc toutes ces choses-là. Ce qui est beau, c'est une offrande qui est aussi une revendication en même temps. Mais c'est très, je pense que c'est très désarmé justement. Il y a le corps, mais on est loin. Je ne trouve pas qu'on retrouve avec son rapport avec son corps. Ça joue un rôle pour le dévoilement, mais c'est pas ça qui m'a beaucoup touché dans ce fait-là. C'est plutôt justement, on a deux très jeunes gens qui se découvrent. C'est d'ailleurs comme le rapport au portrait, hein, c'est pas rien aussi de se découvrir dans les yeux de quelqu'un. Alors on peut s'en servir comme d'une stratégie, comme c'est le cas pour Théodora et Kinbot, mais la première libération, c'est aussi de se voir par le regard d'un autre, et là c'est la relation, donc s'exposer, se dénuder devant quelqu'un, c'est très beau, quoi, je le trouve, entre deux jeunes gens.
Voilà, triomphe de l'amour, triomphe du désir, triomphe du corps aussi. La scène finale, on va pas la raconter, mais elle est effectivement particulièrement marquante. Et donc, triomphe du théâtre aussi, parce qu'on passe vraiment par toute une gamme d'émotions et aussi de réflexions. Merci infiniment à tous les deux, Emmanuel Bayamaktam et Clément Poiré, d'être passés par les studios de RFI à l'abordage. Un spectacle total, un spectacle plaisir, et donc qui fait aussi réfléchir à l'affiche du Théâtre de la Tempête jusqu'au 18 octobre. Et bonjour Alain Pilou.
Bonjour Jean-François.
J'étais avec Lise dans le Tesco. Aucun client ne t'a vu. Comme la Providence à Pondo. Personne ne t'a reconnu. Tu dis, je t'ai.
Panam Airlines sur RFI et le duo Vertige, duo composé de Robin Fex et de Jérôme Coudane.
Et chacun issu d'une compagnie différente, le premier qui vit désormais en Angleterre s'est fait connaître dans celle-ci.
Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes.
Louise attaque, et dans celle-ci pour le second qui lui s'est installé en Espagne. Deportivo. Notez aussi que Jérôme a monté parallèlement le projet Navarre.
Alors qu'ont décidé Alain de faire nos deux musiciens ?
De la pop radicale, Jean-François, dixit Robin, c'est-à-dire Jérôme.
Alors c'est on a plutôt c'était plutôt une sorte de planche d'appel pop radical, c'est-à-dire que on l'a conservé en tête pendant tout la composition des morceaux, et c'était comme ça un but. L'idée c'était notre définition, c'était quelque chose d'assez épuré, d'assez concis et qui reste quand même accessible. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui soit... Il y a une proposition artistique, voilà, que ce soit de la musique populaire, mais avec une proposition artistique.
Vertige, chorus, la majeure partie des textes ont un lien avec l'idée de foule. Explication.
Moi, j'habitais à Barcelone, donc j'ai assisté notamment à des mouvements de foule comme ça pendant... Ils ont tenté de déclarer l'indépendance. Bon, bref, mais j'ai assisté comme ça à des foules, à des mouvements de foule. C'était très intéressant d'assister à ça. Du coup, ça m'a amené à des lectures de Le Bon, notamment, tout ça. Et ça m'a fasciné, la facilité qu'on peut avoir à manipuler des foules. Il s'agit de quelques ingrédients qui marchent à chaque coup.
Train, vertige, un binôme.
Bi comme binôme, mais comme bipolaire aussi, une notion que l'on retrouve dans ce disque. Pour quelle raison ?
Je pense que le point de départ, c'est qu'il y en a un qui est à Brighton, l'autre qui est à Barcelone. Déjà, c'est... Et puis, à travers ces lieux, il y a aussi des mentalités. C'est un peu entre Joy Division et puis Manu Chao. C'est un peu tout ça, un pied chez l'un, un pied chez l'autre, quoi.
L'intitulé du disque est populaire, Jean-François. On y trouve aussi une référence aux populistes. Une définition pour chacun de ces termes.
Alors, populaire, c'est, y a quelque chose qui a attrait au succès et puis a attrait aussi au peuple, bien sûr. Donc c'est un peu les deux. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on associe souvent le côté populaire, et maintenant, ça a valeur de qualité. Par exemple, quand on regarde sur les réseaux sociaux, le commentaire le mis en avant, c'est celui qui est le plus populaire, qui a eu le plus de likes. Donc c'est censé être le plus pertinent, ce qui est une connerie absolue. Et puis populiste, alors là, la définition est très compliquée, parce que chacun a sa propre définition. C'est un de ces mots qu'on... Qui est un peu vidé de son sens, ou alors on sait plus trop ce que ça veut dire. Et c'était notamment dans la première chanson de l'album, je dis que ce serait bon moment pour oublier les populistes, mais c'est surtout bon moment pour oublier les mots vidés de leur sens, en vérité. C'est-à-dire, on sait plus trop ce que c'est. Voilà, c'est facile de dire, bon, lui, il a l'air de vouloir utiliser les gens et le peuple à des fins électorales ou pour un bénéfice personnel et tout, mais finalement, tous les politiciens le font. Et puis, dans la confusion, un mec comme Macron est capable de dire, moi, je suis populiste. Il a déclaré ça. Et donc tout ça ne peut plus dire grand-chose, selon moi. C'est un terme qui est un peu confus. Voilà. Mais ça fait partie aussi de l'idée de l'album, c'est-à-dire que l'album, il s'agit beaucoup de confusion et de foule. Et dans cette idée de confusion, le terme populiste, pour moi, il est super. Et c'est un bon...
Conduire, vertige, extrait de l'album populaire sorti chez At Home. Merci beaucoup Alain. Dans un instant, l'info sur RFI. Demain dans VMDN, le journaliste et réalisateur David Dufresne pour son film Un pays qui se tient sage, film qui traite des violences policières, notamment celles qui ont surgi à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes en France. À demain et vous m'en direz des nouvelles.